On va parler à présent de ce qu'on appelle désormais le Qatargate. Nous sommes en ligne avec Christian Chéneau. Bonsoir Christian.
Bonsoir.
Christian, vous êtes l'auteur avec Georges Malbruno d'un livre qui était un peu annonciateur, hein, puisque ça s'appelait Les Qatar Papers, paru aux éditions Michel Lafond. Et alors vous aviez commencé à enquêter sur la façon dont le Qatar finance les réseaux des frères musulmans, de l'islam radical en France. Mais alors là, ça va beaucoup plus loin, puisqu'on a Eva Kaili, qui, j'espère que ça se prononce comme ça, qui a été écrouée. Elle dit qu'elle ignorait l'existence de l'argent qui a été retrouvé chez elle. C'est des sommes qui sont colossales et en espèces. Vous, journaliste, vous vous doutiez que ça allait prendre une telle ampleur, cette histoire de corruption du Qatar, des élus en Europe ?
Bah là, le cas est assez extraordinaire, assez énorme, mais avant Qatar Papers, avec Georges Malbruno, on avait publié Nos Très Chers Émirs, dans lequel on démontrait, avec des preuves à l'appui, la corruption, en tout cas les petits cadeaux faits par le Qatar au personnel politique français, hein, l'ambassade qui était presque devenue un distributeur de billets de 500 euros, donc on citait des noms à l'époque, etc. Oui, donc le Qatar a procédé à un lobbying très agressif, hein, on va dire. Alors c'est vrai que là, c'est assez intéressant parce que et pour la première fois, je veux dire, on a quelqu'un qui a pris la main dans le sac, hein, la main dans le pot de confiture.
La main dans le sac, vous savez pas si bien dire, Christian Chéneau. Elle est dans les couloirs du Parlement. Elle sait pas qu'elle va être interpellée. Deux policiers viennent, comme dans les films. Madame, s'il vous plaît, vous pouvez nous montrer votre sac. Et à l'intérieur, plein de billets de banque.
Voilà. Donc là, c'est vrai que c'est assez, j'allais dire, old fashion, ou un petit peu, on a l'impression que ça appartient à une autre époque. Mais c'est vrai que moi, je révèle, donc, dans mon nouveau livre, qui s'appelle Qatar, les secrets d'une influence planétaire, qui vient de sortir, en 2015, par exemple, un haut responsable du Qatar avait donné une valise de 3 millions d'euros au prince Charles, à l'époque, hein, qui après avait validé, régularisé l'argent, parce qu'il y avait eu des fuites, et donc ça faisait mauvais genre, hein, d'avoir du cash comme ça. Il avait dit, bon, après, c'est pour les œuvres, les orphelinats, etc. Mais c'est vrai que la pratique de la valise, les Qatariens connaissent bien, ils l'ont utilisée pour la diplomatie, hein, en 2008 pour la crise libanaise, avec les Palestiniens, etc. Donc ce qui est un peu surprenant, c'est que ça se passe à Bruxelles, en plein cœur de l'Union européenne, et que ça implique quand même une vice-présidente du Parlement, un député, il y a plusieurs députés, etc. Il y a un patron des syndicats européens, donc ça fait quand même beaucoup. Et puis, on est peut-être qu'au début de l'affaire. C'est-à-dire qu'on risque de découvrir d'autres noms par la suite.
Mais d'ailleurs, vous savez que les auditeurs de Radio Channel connaissent bien parce qu'il y avait des valises de billets du Qatar tout à fait légalement qui transitaient tous les mois pour payer une partie des salaires de Gaza.
Ah oui,
et Netanyahou. Mais ça, c'était pas illégal. Netanyahou laissait faire.
Oui, bah ça sur la bande de Gaza, on sait que maintenant le financier de la bande de Gaza, c'est l'émir Tamim, hein, c'est le Qatar. D'ailleurs, ça arrange bien Israël, puisque ça permet finalement de maintenir, en perfusion économique la bande de Gaza, et donc ça évite aux gens de mourir de faim, quoi. Donc finalement, il y a une espèce de répartition des rôles, la sécurité à Israël et l'économique et le financier à l'émir.
Alors ça, Qatar. Vous avez raison, c'est jalonné, c'est compris. Par contre, franchement. Qu'est-ce que cherche le Qatar avec cet argent ? Lorsque vous avez écrit votre livre avec Georges Malbruno, on comprend, ils veulent une influence dans les mosquées, ils ont une vision de la société qui leur appartient. Mais là, par exemple, cette brave Eva Kaili, qu'est-ce qu'ils voulaient d'elle ? Pourquoi ils veulent de l'argent ?
Ils voulaient de l'influence, parce que heureusement d'ailleurs...
Pour faire quoi ? Pour des chantiers, pour acheter des hôtels, pour quoi faire ?
Non, pas du tout, pour de l'influence politique et diplomatique, c'est-à-dire que là, on l'a vu, on l'a pris d'ailleurs encore en flagrant délit il y a quelques semaines à expliquer devant le Parlement européen que le Qatar était un modèle du traitement humain des travailleurs, etc. Et puis vous avez tout le travail souterrain du Parlement et des institutions européennes où vous avez des dossiers techniques, hein, par exemple celui de l'ouverture du ciel aérien à Qatar Airways, vous avez l'affaire des visas qui est en ce moment à l'étude et qui va être reportée, c'est-à-dire l'exemption des visas pour les Qatariens. Donc, quand vous avez des gens dans la place, en gros, des gens noyautés, eh ben, ils poussent en votre faveur. Donc, ça vous aide et puis ça permet de désarmer les critiques. On l'a vu, le Parlement européen voulait pousser des condamnations, en tout cas même déclaratives, hein, pour dire au Qatar les droits humains sont un petit peu malmenés. Et ben, vous avez toute une série de députés qui se sont opposés et finalement, on a eu une espèce de déclaration mi-chèvre mi-chou. Donc, c'est ça l'influence, hein, et ça fait un réseau de loyauté, d'alliés qui, le moment venu, va défendre les intérêts du Qatar.
Vous pensez que c'est comme ça qu'ils ont eu la Coupe du Monde ou non? Vous n'allez pas si loin?
Ah ben bah non, mais ah bah, la Coupe du Monde, on sait qu'elle a été quasiment achetée, hein, mais sauf que là encore, il n'y a pas le, ce qu'on appelle le smoking gun, c'est-à-dire la preuve ultime qu'il y a eu corruption. On sait qu'il y a énormément de soupçons, il y a eu beaucoup d'enquêtes, mais on n'a rien trouvé. Donc ça va rester un petit peu à l'état nébuleux. Peut-être que dans quelques années, on découvrira qu'il y a eu des valises, peut-être des pays, on verra par exemple à qui le stade, le fameux stade 974, là, le fameux stade des containers, à un moment il va être démonté et donné dans un pays africain. Ça donnera peut-être une idée, peut-être que ce pays a voté pour le Qatar en 2010.
Et par ailleurs, vous avez raison, hein, j'aimerais pas être à la place des députés qu'on dit du bien du Qatar.
Parce qu'ils
ont une petite liste, là, ils doivent être mal. Hein.
Alors, c'est très grave, parce qu'évidemment, après, ça plombe la parole publique et politique. C'est-à-dire, dès que quelqu'un va dire du bien à un pays, on va dire, vous êtes acheté. Alors, il n'y a pas que le Qatar. Hein. Vous avez l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, l'Arabie Saoudite et plein d'autres. Donc, à partir de là, le Maroc aussi. Tous les gens qui font du lobbying au niveau parlementaire, dès qu'il y aura quelque chose de positif et qui peut être normal et vrai, il y aura un soupçon. Il y aura toujours ce soupçon de dire, vous êtes acheté par qui?
Mais vous savez que la vidéo avec cette jeune femme, elle est incroyable, parce que d'abord déjà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de prestance, elle est vice-présidente du Parlement.
C'est une ancienne speakerine de la télé grecque.
Elle est, voilà, mais alors, elle dit ça avec une, comment dire?
Un aplomb.
Avec un aplomb. Elle dit des contes, mais en plus des trucs, c'est des horreurs. Et tout le monde continue de critiquer le Qatar, alors que c'est un modèle des droits de l'homme. Elle dit ça avec un aplomb pas possible, et en fait, elle a un sac à dos bourré de billets, donc.
De billets, et pas seulement de billets, on parle de voitures, on parle de cadeaux, de monde. Moi, je parle dans mon bouquin de la diplomatie de la Rolex, et on va voir tous les VIP qui ont été au Qatar pour assister au Mondial, s'ils sont tous repartis avec une Rolex ou une montre de luxe, parce que c'est les petits cadeaux qui entretiennent l'amitié, et ça fait partie du modus operandi des Qatariens qui disent, en fait, tout peut s'acheter, tout le monde peut s'acheter, il suffit de mettre le prix, hein, et connaître le prix. Eux, comme je lis souvent, sont immensément riches, hein, 300 000 habitants, un fonds souverain de 450 millions de dollars, alors que le fonds français est de 45 milliards, c'est-à-dire 10 fois moins, et donc à partir de là, ils peuvent arroser, et puis ils savent qu'ils sont incontournables avec le gaz, ils savent que de toute façon les Européens viendront à Doha faire la queue au palais de l'émir pour avoir leur cargaison de gaz.
Et c'est un pays qui est en train de s'ouvrir comme l'Arabie Saoudite. Ça va peut-être pas vous plaire, parce que vous, en tant qu'expert du Proche-Orient, il y a plusieurs écoles sur l'Arabie Saoudite. Il y en a qui disent non, il s'ouvre pas, c'est une dictature. D'autres, au contraire, constatent d'autres choses, par exemple, qu'ils parlent avec les Israéliens. Pour vous, le Qatar, c'est un pays qui va dans le sens de plus de rigorisme et qui amuse la société avec, par exemple, tout ce que vous venez de décrire, ou bien non, c'est un pays qui s'ouvre?
Non, mais est-ce qu'on peut parler de pays, à 300 000 habitants, ce que je disais, c'est une rue de Casablanca, quoi. Je veux dire, c'est un quartier de Tel Aviv. Est-ce que c'est un pays? Moi, j'ai plus l'impression que c'est une multinationale avec un PDG qui s'appelle l'émir, le conseil d'administration qui est la famille royale, et puis les actionnaires qui sont en fait les Qatariens. Vous savez, il y a que 100 000 actifs au Qatar. Donc voilà. Mais c'est un pays effectivement qui fait le pari de la mondialisation, qui a compris que soft power, c'est la culture, c'est le sport, c'est l'éducation, qui a les moyens de ses ambitions et qui met le paquet. Et on voit bien que ça va inspirer les voisins, y compris l'Arabie Saoudite. Quand Mohamed Ben Salman, le prince héritier, est dans la tribune, voit son équipe gagner contre l'Argentine et voit le succès, parce que c'est un succès ce mondial, il se dit, moi aussi je veux ça chez moi. Et donc ça va donner des idées. Et effectivement, en Arabie, il y a quand même aussi un mouvement de libéralisation. Hein. On l'a bien vu sur les femmes et sur, sur le sport, c'est clair.
Eh bien, Christian Chéneau, merci pour ces précisions. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage qui concerne précisément notre question. Qatar, les secrets d'une influence planétaire, c'est paru aux éditions Talendier.
Et merci à vous.
Pardon ?
Oui, merci à vous.
Merci vous de nous donner toutes ces précisions, tout ce travail d'enquête. Vous êtes grand reporter, c'est un métier très noble et très rare, de moins en moins de grands reporters aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été l'invité de Radio Chéneau. Bonsoir à vous.
Merci à vous, bonne soirée, au revoir.